Est-ce que vous avez de l'ambition dans la vie? On ne sait jamais comment il faut répondre à ce genre de questions, parce que le mot ambition, il a double tranchant. On voit tout de suite qu'il y a peut-être un piège d'un prédicateur. Et si je réponds oui, j'ai un problème. Si je réponds non, j'ai un problème. Et c'est vrai, parce que c'est un mot qui est compliqué. On est tous d'accord, il y a des très bonnes ambitions. Moi, je suis professeur et j'enseigne des élèves. Puis pour vous qui avez des enfants qui allaient à l'école, vous avez envie qu'ils réussissent, non? Vous avez de l'ambition pour vos enfants? Vous voulez quoi? Vous voulez le meilleur? Vous voulez qui? Bien sûr, vous voulez le meilleur. Vous êtes des bons parents. Enfin, je vous connais pas assez peut-être, mais je suppose que vous voulez quand même qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On est dans une optique d'excellence. Moi, je souhaite la réussite, l'amélioration, qu'ils aient des compétences supplémentaires. Le monde est dur aujourd'hui. Il vaut mieux savoir ce qu'on veut. Il vaut mieux prendre les moyens aussi de ce qu'on veut. Et l'ambition est bonne. L'ambition peut vraiment être quelque chose auquel Dieu, des fois, nous demande aussi d'élever nos limites, d'étendre nos barrières. Vous avez entendu cette prière de Jabez. C'est vraiment et large, qu'il y ait la largeur dans ton territoire. Il y a une notion d'ambition. Mais en même temps, alors c'est très à la mode. C'est très à la mode. Il y a beaucoup d'églises de champions. On est, moi aussi, je suis tenté par ça des fois de faire une prédication les trois secrets pour devenir meilleur. Et puis après, c'est les cinq étapes vers l'abondance spirituelle, les huit principes pour la prospérité. Vous avez jamais entendu ça? 14 étapes pour devenir un leader, 18 pour être un champion. Et c'est vrai que le monde est comme ça et des fois l'Église peut être tentée de caler sur la vision du monde par rapport à l'ambition, vision de cette terre par rapport à l'ambition. Alors autant il y a des choses très nobles dans l'ambition, autant à l'extrême ça peut être dangereux et je pense qu'il faut étudier nos motivations. Surtout lorsque, honnêtement, dans l'ambition concrètement, face à une promotion sociale, par rapport à notre statut, notre reconnaissance par les autres, souvent, on a envie de monter, et parfois cette envie de monter fait que l'on est prêt à écraser les autres. Ou bien, peut-être pas écraser les autres, vous me direz, mais simplement les manipuler pour pouvoir passer devant. Ou bien, pour les meilleurs d'entre vous, enfin les plus fins, mais aussi peut-être les plus dangereux, se débrouiller pour que ça vienne des autres alors que c'est manipulé par vous, votre élévation. Ce matin, je voudrais te dire, Dieu veut ta réussite. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire parce que si c'est lui qui le fait, quand Dieu t'élève, personne ne pourra t'abaisser. Si jamais tu joues des coudes pour monter, tu vas monter tout seul. Tu vas monter tout seul. Regardez ce que Jésus nous enseigne. Il y a trois textes. D'habitude, j'aime bien étudier un seul texte ce matin et aller en profondeur sur un personnage. Je vais faire différemment. Moi aussi, j'essaye de me remettre en question toujours. On va étudier dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 23. Jésus a été détesté quand il a dit ça. Mais détesté. La société du Moyen-Orient, au début du premier millénaire, c'était vraiment une société inégalitaire. Aujourd'hui, il y a des riches et des pauvres. Il y a toujours eu sur la terre des riches et des pauvres. On leur donne d'autres noms, mais il y a toujours eu des maîtres et des esclaves. Il y a toujours eu des gens qui ont profité pour s'élever au-dessus des autres. Et déjà dans la société du Moyen-Orient, là où Jésus nous parle, il y avait déjà cela. Il y avait des maîtres et des esclaves, il y avait également des religieux, et puis des pauvres veuves, il y avait de tout. Il y avait de tout. Alors on lit ensemble, Matthieu 23. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, « Les spécialistes de la loi, les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites tout ce qu'ils disent. » Et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre pour modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Jésus parle à trois types de personnes. il y a trois personnes que l'on voit dans ce texte. On voit les pharisiens, les religieux, et ça peut être aussi toi et moi ce matin. Parce que d'après quelques années dans une église, on pense qu'on a compris beaucoup de choses sur la loi de Dieu, vous amenez votre Bible et vous avez raison, vous la portez fort dans votre cœur et vous avez raison, et des fois vous devenez aussi dur qu'un pharisien. Il y a aussi dans ce texte des disciples. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui sont dans la proximité du Seigneur. Ils passent toute leur journée avec lui, et pourtant, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et puis après, on va voir comment Jésus lui-même agit. Les pharisiens et l'ambition, les disciples de Jésus et l'ambition, et Jésus et l'ambition, comment il réagit lui. On prie ensemble, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, pour que ce message puisse pas être un message que l'on entend comme les pharisiens qui disent des belles choses, mais qui mettent pas ça en pratique. Seigneur, je te prie pour que ce message, il y ait des fruits concrets dans la vie de quelqu'un ce matin. Et si ça doit être moi qui dois être remis en question, Seigneur, je vais avoir l'humilité maintenant d'accepter quel est ton jugement sur ma vie et comment tu veux m'amener plus haut à ta façon. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, qu'il soit saturé de l'onction de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors regardez. Qu'est-ce que Dieu écrit, qu'est-ce que Dieu dit aux pharisiens? On est au chapitre 23, verset 5. Est-ce que c'est possible d'afficher le verset 5? Regardez l'ambition des pharisiens. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets, phylactères ça s'appelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les juifs très très pratiquants, des phylactères, des petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres. Et les franges de leurs manteaux sont plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets, les sièges d'honneur dans les églises, pardon, dans les synagogues. C'est pareil. Hein. Vous avez... Et chaque fois que je vois des chaises de pasteurs différents, ça me fait bizarre. Vous n'avez pas vu ça partout? C'est à la mode, je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'ai l'impression que le monde devient de plus en plus chrétien et les chrétiens de plus en plus mondains. Même Sarkozy, il n'a pas autant de rouge et de broderie sur son siège. Il est plus malin pour faire semblant d'être humble alors qu'il ne l'est pas forcément. Mais bon, ne vous inquiétez pas, tous les politiques sont pareils. Mais ils soignent plus leur image que des fois les super pasteurs qu'on a. Vous rentrez dans une église et vous regardez. Oh, il y a une chaise Molton et mousse, double épaisseur, rouge. Wow! Vous voyez que la chaise. Seigneur, ils aiment avoir les meilleures places dans les banquets, les sièges d'honneur. Et c'est pareil chez toi. Hein. C'est pareil chez toi. Regarde comment tu agis par rapport au tien. Des fois, tu te sers en premier, non? Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques, qu'on les appelle maîtres. J'aime qu'on me respecte en tant que le mari ici. C'est moi le père de cette famille. C'est moi ta mère! Ça vous arrive jamais de revendiquer des titres comme ça? Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père Céleste. Là, il parle d'un point de vue autorité morale, il ne parle pas du père, le papa. Ne vous faites pas non plus appeler chef. Il faut prêcher ça dans les églises, mes frères et sœurs. Car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Waouh! Comprenez qu'il n'est pas beaucoup d'amis après une telle déclaration. Après une telle déclaration. Être vu, ils aiment être vus. Regardez, honnêtement, quelle est la somme que tu dépenses pour être vu chaque semaine? Mes sœurs, quelle est votre dépense? Et c'est légitime, vous avez le droit de vous sentir belle, c'est aussi important. Je ne veux pas tomber dans un extrême. Mais quelle est votre dépense de maquillage, de mascara? Pour le dernier waterproof, le dernier, ou bien les habits, cette... que vous allez garder dans votre garde-robe pendant des années en leur disant bonjour et en ne les utilisant jamais. C'est pas vrai, les frères. C'est à la mode maintenant, les frères. J'ai vu qu'ils passent des heures dans des ce qui était d'habitude des salons pour les femmes. Maintenant, et les hommes, ils passent des heures dans des épilations, je sais pas quoi. Là. Tant mieux si ça vous fait vraiment du bien, mais vous voyez Jésus dans un salon d'épilation, vous ? Je sais pas. Peut-être, hein. Faut vivre avec son temps, mais je suis un peu gêné quand même. Vous voyez ? Je pense qu'on est arrivé dans une société du culte de l'apparence, quoi. L'apparence, ils aiment être vus, ils aiment être reconnus. Vous avez vu, les pharisiens, ils aiment être vus, ils aiment qu'on les voit en premier, puis ils aiment être reconnus. Appelez-moi maître, appelez-moi rabbi. Jésus, lui, il y a quelqu'un qui est arrivé vers lui et qui lui a dit, bon maître. Je lui ai dit, oh, je t'arrête tout de suite, là. Vous savez que des fois, on essaye d'acheter les gens en leur donnant des titres pour les flatter un petit peu. Et Jésus dit non, 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 non. Non, 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 non. Bon, vous êtes encore là? Personne n'est parti pour l'instant, vous êtes otage. On regarde comment les disciples ont réagi, eux, face à ça. Allez, on tourne, c'est la page, c'est un tout petit peu avant, c'est dans Matthieu 20. Les disciples et l'ambition. On a vu les pharisiens, alors on peut les juger. Hein. Ah, qui sont pas bien ces religieux. Bah, mais nous, on n'est pas comme ça, nous, les disciples de Jésus. Hein? Dans les églises. On n'est pas comme toutes ces personnes-là, des fois, qui... Ben, regardez ce que Jésus dit. 20-17. Matthieu 20-17. Ce texte, il est terrible. Un jour, j'ai eu quelqu'un dans l'église qui m'a bouleversé. Et franchement, j'en fais des entretiens. Je fais à peu près 300 entretiens par année et j'en entends. Je vous connais un petit peu. Vous me connaissez un petit peu. Mais vous voyez, en entretien, quand on est pasteur, on voit des fois le cœur des gens. Pas tout à fait au début de l'entretien. Au début de l'entretien, tous les chrétiens sont sanctifiés. C'est quand on creuse un peu. J'ai quelqu'un en entretien. Alors je ne sais pas si je peux dire son prénom ou pas, mais c'est quelqu'un de cette église, mais c'est bien, donc je vais quand même rendre hommage parce qu'elle ne le fera jamais. Je vais lui donner son deuxième prénom, Idrani. Elle était en entretien avec moi et elle m'a marqué. Parce que pendant tout l'entretien, je voyais qu'elle était stressée, qu'elle ne se sentait pas au niveau. Il y en a qui sont très sûrs d'eux au bout de 5 minutes. Hein. Mais elle était toujours... D'une grande douceur, d'une grande finesse. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, pasteur, j'ai une question, mais j'ose pas. Alors j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va me demander? Et Dani me dit comme ça, est-ce que vous pensez que maintenant, je suis à la hauteur, elle venait juste de prendre son baptême, que je suis à la hauteur, que je suis spirituellement capable pour pouvoir prendre le service de ménage. Et je m'attendais tellement à autre chose. Je m'attendais à chanteur. Je m'attendais à responsable de quelque chose, quoi. Est-ce que vous me trouvez assez bien pour pouvoir maintenant avoir le droit dans l'église de servir Jésus à faire le ménage? J'ai pris une claque ce jour-là. Je me suis dit, oi, 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 c'est la première fois qu'on fait cette demande-là. C'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui était... Mais voilà, c'était touchant, parce que c'était tellement vrai, vous voyez, il y avait zéro manipulation là-dedans. J'étais touché, j'ai dit, toi, t'es béni par Dieu. Parce que c'est pas que t'as tout compris, c'est que tu vis l'évangile. Regardez les disciples dans 20-17. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, voici, montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, ils le condamneront à mort, le mettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet, le clouent sur une croix, puis le troisième jour, il ressuscitera. Jésus parle à ses disciples en disant, voilà ce que les religieux de cette époque, les pharisiens, etc., les spécialistes de la loi, vont faire de lui, d'accord ? Normalement, les disciples devraient réagir. Alors, donc les disciples vont réagir, verset 20, lisez avec moi le verset 20. Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils, elle se prosterna devant lui. Et là, on s'attend à ce qu'elle dise, Seigneur, on sera avec toi dans ce moment d'horreur. S'il faut être là, tu pourras compter sur nous. Non. Vous lui demandez une faveur. Jésus est tellement bon. Il lui dit, que désires-tu ? Lui demanda-t-il. Elle répondit, voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Les disciples de Christ n'ont rien compris. On n'aime que Jésus qui règne, on n'aime pas Jésus crucifié. Vous aimez bien qu'il y ait des temps de Sainte-Seine, des temps où on dit « Ah Seigneur, merci pour la croix », etc. Mais quand ça s'applique dans vos vies, vous voulez quoi ? On veut la prospérité, on veut être à la droite de Dieu, on veut être « Alléluia », on veut pouvoir décrier des « Amen, il a fait pour moi des merveilles ». Mais il a fait pour toi des merveilles aussi lorsqu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Et ça, vous voyez, il y a quelque chose d'incroyable dans ce texte. Jésus est en train de livrer son cœur, parler du sens le plus profond de qu'est-ce que c'est que son ambition à lui, c'est d'être cloué sur une croix. Et Madame Zébédée, bon, j'en veux pas, hein, je pense que tous les mamans, elle était pleine de bonnes intentions, mais simplement, il y a un décalage tellement fort entre ce qu'elle entend et ce qu'elle pense à l'intérieur. Ça vous est jamais arrivé ? Il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose à côté, mais votre cerveau, il tourne sur lui-même, il pense complètement à autre chose. Et peut-être, alors que je suis en train de vous parler ce matin, vous êtes en train de penser à votre liste de courses que vous allez faire mardi. Parce qu'il y a des moments où Dieu te parle, mais t'écoutes pas. Dieu te parle et t'es ailleurs. Pourquoi ? Parce que t'as déjà un projet, et je pense que cette maman Zébédée, elle est... Le « alors », il est terrible dans ce texte, parce que Jésus est en train de parler. « Alors, madame... » Comment c'est possible d'être en décalage à ce point-là ? Comment c'est possible d'être aussi insensible à ce que Dieu est en train de te dire ? Réveille-toi ! Vous savez, les chrétiens, on a... On sait, au fond, ce qui est bien. On sait comment être spirituel. Et on est presque prêt à dire, Seigneur, c'est avec toi qu'on aura la réussite. Ça vous arrive de dire, ça c'est bien. Vous voyez, il y a quelque chose dans la maman de Zébédée, tout n'est pas mauvais. Elle dit, je veux que mes deux petits chéris soient bénis par toi. Elle ne dit pas, je veux qu'ils soient numéro un auprès de Ponce Pilate. Elle dit, Jésus, je mets toute ma foi en toi pour que mes chéris soient super bénis. Et vous voyez, elle met sa foi en Dieu, mais avec des mauvaises motivations. Et c'est pour ça que lorsque tu fais des projets, qui sont des projets qui sont, parlons vrai, portés par ta chair, par ton désir de peut-être d'écraser les autres, de prendre la place des autres, d'être vu, d'être reconnu, quand tu fais cela, tu sanctifies ce projet en y mettant Dieu dedans. Je ne sais pas si je vous ai perdu ce matin quand je dis ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des projets dans lesquels on met Dieu dans nos affaires ? On prie beaucoup. Je pense qu'avant, vous savez, avant cet entretien avec Jésus, je suis sûr qu'elle a prié. Elle a dit, Dieu, tu ouvres le cœur de Jésus pour que maintenant, il dise oui à ma prière. C'est rien d'autre qu'une prière que ce qu'elle vient de faire à Jésus. Et des fois, il y a des prières que l'on fait, on prépare et on veut comme contraindre Dieu à aller dans notre sens pour qu'on puisse s'élever. Qu'est-ce qu'on aime les titres ? Moi, je sais que moi-même, on est tous sensibles quand quelqu'un vient nous donner un titre. Moi, des fois, je vais en pastoral aussi et je suis étonné comment les gens parlent entre eux. Quand vous écoutez des fois des prédicateurs, je ne sais pas si vous écoutez God TV, des choses comme ça, regardez comment ils parlent les uns des autres. Et moi, plus il y a de titres, plus ça me fait peur. Parce que Jésus dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne père, n'appelez... Alors là, pourtant, non, vous arrivez dans une église, vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, un ami d'enfance, d'accord ? Et hey, Jean-Marc, ça me fait plaisir de te retrouver. Ah non, moi, c'est pas Jean-Marc, c'est Diacre. C'est Diacre, Jacques, Jean-Marc. Ah non, non, tu sais, moi, je suis ancien, moi, c'est Jean-Marc l'ancien, ici. Tu peux pas faire... Puis après, un petit peu de temps, vous allez voir Jean-Marc l'ancien. Ah non, moi, c'est pasteur, frère. Mais t'es pasteur de quoi ? Ah non, mais je suis pasteur. T'es reconnu par qui ? T'es dénommé par qui ? Il est pasteur. Puis après, Jean-Marc devient apôtre. Parce qu'au bout d'un moment, ou révérend, apôtre, bishop, on dit bishop parce que l'anglais, ça fait bien. Mais le Seigneur du ciel doit sourire à nos titres. Il doit sourire. Et quand Jean-Marc arrive au ciel, c'est bishop Jean-Marc au ciel. Ben non. On est tous pareils. Enfin, je vous assure, je serai dans la... S'il y a une queue pour entrer au ciel, je serai avec vous au milieu. Hein. Il y aura quelqu'un devant, il y aura quelqu'un derrière. Ce sera peut-être toi. Jésus dit à ses disciples, si vous, vous, et à ce moment-là, il le dit d'ailleurs, dans un autre évangile, à propos de ce même texte, si vous ne vous convertissez pas, vous n'avez rien compris au royaume de Dieu. Mais, pasteur, je suis déjà converti. Enfin, je suis disciple depuis 3 ans. J'ai tout quitté, j'ai planté mon entreprise artisanale de pêche pour te suivre. Et tu me dis si, moi, Pierre, tu me dis si je ne me convertis pas. Mais Seigneur, s'il y en a un sur la terre qui est converti, c'est bien moi. Et Jésus dit, si vous ne convertissez pas, si votre cœur n'a pas changé, convertir, ça veut dire changer quelque chose. Si votre cœur n'a pas été bouleversé, si vous avez encore la mentalité de ce siècle, alors vous ne pourrez pas vivre le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas comme les autres royaumes. T'aimes bien les titres. Moi, je sais que c'est pareil hein, dans l'Église, et je ne vous en veux pas, mais il y a toujours beaucoup plus de candidats pour servir Dieu dans les ministères dans lesquels votre moi est un peu valorisé. Je crois pas avoir entendu un jour, j'ai entendu des personnes, et sans offense, parce que vous le faites déjà, vous êtes bénévole, vous le faites de tout votre cœur, donc je veux aussi respecter votre engagement, parce que c'est beaucoup de travail quand vous connaîtrez vraiment ce que c'est qu'être musicien ou d'être chanteuse dans l'église. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un dans l'église qui me dit « je veux être chanteuse en maison de retraite ». Je suis d'accord. Des chanteuses pour un petit concert privé, il y en a plein. Mais chanteuses pour aller en maison de retraite, pour aller prendre soin avec sa voix pour une après-midi, d'aller bénir des personnes qui n'auront pas la possibilité de valoriser votre image, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. Et Jésus, c'était ça, parce que lorsqu'il passait du temps, et les pharisiens étaient choqués de ça, dans quelle maison il allait ? Pire que les maisons de retraite. Il allait dans les maisons, là où il y avait des prostituées, maisons de prostitution, les maisons closes de l'époque. Et Jésus osait aller dans des maisons. Et Simon, une fois, il était choqué. Mais Seigneur, tu ne sais pas que les gens avec qui tu traînes, là, c'est que des... Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Je termine sur les disciples. Regardez la fin de ce texte. Jésus leur répondit, verset 22, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui !» lui répondirent-ils, « Nous le pouvons !» Alors Jésus reprit, « Oui, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Je vais te dire quelque chose. Et est-ce que c'est possible d'afficher cette phrase sur l'écran ? Juste après. si c'est toi qui t'élèves. Tu devras te défendre toi-même pour garder ta position et ton titre. Et si c'est Dieu qui t'élève, par contre, c'est lui qui défendra qui tu es. C'est vrai dans ton travail. Si tu fais des manigances pour monter, bonne chance pour rester. Et tu vas y passer beaucoup d'énergie et beaucoup de nuits blanches. Mais si tu laisses Dieu faire ta promotion, vous savez pas quoi ? Dieu dit, ça c'est mon poulain. Et quand tu es le poulain de Dieu, tu es indestructible. L'autre, il peut t'envoyer des javelots en face, tu es indestructible. David n'avait que sa pauvre petite harpe, mais il avait la louange dans son cœur. Et lorsqu'il jouait, il se rendait même pas compte qu'il était indestructible. Un javelot de Saül à droite, un javelot de Saül à gauche, et il allait devenir roi. Pourquoi ? Parce que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse, c'est même pas sera élevé, c'est Dieu l'élèvera. Est-ce que tu comprends ça ce matin ? Il y a une sécurité. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es à une position que Dieu t'a donnée, lorsque tu progresses dans l'entreprise, lorsque tu progresses dans l'église, que tu vois un rayonnement dans ta vie, je peux te dire une chose, c'est si c'est Dieu qui t'a mis là. Seigneur, tu es ma justice. Je sais ce que j'ai fait. Alors, ils vont essayer de salir ta réputation. Moi, j'ai appris que j'avais un site web qui était là pour me massacrer. Ben oui. Alors, est-ce que je devais dire, « Oh, ma réputation, Seigneur, tu vois !» Ça fait mal. Il y a quelqu'un qui me dit, « Yvan, t'as vu ce qui a été écrit ?» Moi, j'ai regardé ça, je dis, « Oh, c'est pas vrai. Quelle horreur !» Mais vous savez, les méchants, si jamais je commence à m'occuper d'eux, je vais y passer ma vie. Hein. Tu vas y passer ta santé, tu vas y passer toute ton énergie, mais si tu dis, je sais qui m'a placé là, et je réfère au patron là-haut. Et c'est ce que Jésus dit. C'est pas toi qu'ils attaquent. C'est moi. Eh bien, je laisse Dieu régler le problème avec eux. C'est dur à faire, hein ? C'est dur à faire. Parce que naturellement, on a envie de... Je suis comme vous, hein ? Tu te rends compte de la collègue, ce qu'elle a pu dire sur toi ? Te faire passer pour ça ? Laisse Dieu faire ! Vous savez ce qui s'est passé avec Wilkerson quand il a eu à cœur d'aller quand il a lu un magazine Life et il a vu les photos de jeunes qui allaient être condamnés, enfin qui étaient en procès, qui avaient d'ailleurs fait des actes très très graves dans un gang à New York, qui avait tué, etc. Et Dieu a mis dans son cœur vraiment d'aller les voir. Il a quitté son église de province, il est parti les voir à New York et là il va dans le, je sais pas comment ça s'appelle, la salle d'audience, quoi. Voilà, c'est ça, la salle d'audience. Et il y a le juge très digne qui vient, qui rentre, qui s'installe. Et Wilkerson, il dit lui-même, et il le dit avec beaucoup d'humour, si vous avez lu La Croix et le Poignard, il avait simplement sa Bible avec lui et une grande, grande compassion pour ces personnes. Et il avait envie d'aller parler au juge. Et à la fin, il y a une interruption d'audience, comme il y a souvent, et Wilkerson, pensant qu'avec sa Bible, il est un peu plus reconnu, il va voir « Votre honneur, votre honneur !» Il court vers le juge. Mais ça se fait pas, ça. Je suis pasteur. Le juge, il en a rien à faire. Tout ça, pasteur chômeur, il en a rien à faire. En plus, le juge était menacé, vous comprenez, parce que lorsque c'est des affaires de gang comme ça, il y a la sécurité de l'autorité judiciaire qui est en question. Tout de suite, le juge est barricadé. Il y a des malabars avec marqué policier dessus qui embarquent David Wilkerson et qui l'amènent, mais vous savez, dans le petit KGB, là où on fait un pré-interrogatoire musclé pour vérifier quelles sont tes intentions réelles. Et les policiers sont là, mais vous faites partie du gang, qui vous a amené, qui vous a donné votre faux certificat de pasteur. Il sort, embarqué par les malabars, avec les sirènes, et puis les photographes, tout le monde, clac, 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 et c'est le pasteur qui sort avec des... La honte de sa vie. Il dit lui-même la honte de ma vie. Et puis, vous savez, on est naïfs, nous les chrétiens, et les pasteurs encore pire. Et il y a un photographe qui dit, Pasteur, est-ce que c'est la Bible que vous avez dans la main? Oui, oui, vous pouvez la lever. Il la lève. Pof, la photo. Un pasteur hirsute en train de rentrer dans un prétoire pour pouvoir arrêter la condamnation. Première page du journal le lendemain. Et il était confondu. Là, tu es humilié, parce que tu fais partie des malfaiteurs. Tu es venu pour des pleines bonnes intentions et Dieu, des fois, permet que tu sois juste pas compris. Alors qu'il est là, qu'il est dans sa chambre, en train de. Ils sont Dieu qui lui dit retourne là-bas.
Et Dieu, une fois ça va, deux fois ça fait beaucoup.
Et il sent que Dieu l'appelle, et ça insiste sur son cœur. Et il y va. Et vous savez, le ministère de Wilkerson, vous connaissez maintenant. Vous connaissez Teen Challenge, vous savez le nombre de vies qui ont été sauvées par son ministère. Eh bien, comment vous faites pour entrer un gang? Quand il est allé voir le gang des rebelles, il y est allé, les gars, ils l'ont reconnu. Ah, c'est le pasteur qui s'est fait embarquer par les flics, il est des nôtres! Et c'est comme ça qu'il a pu rentrer le gang. C'est parce qu'il a eu une honte publique que Dieu lui ouvrait un chemin pour son ministère. Est-ce que 5 minutes, on peut s'arrêter dans le message, mais pensez à toutes les catastrophes qui arrivent des fois dans votre vie, et plutôt que hurler « Dieu, pourquoi ?» commence à dire « Dieu, il y a quoi derrière ? Il y a quoi derrière ?» Parce que, et moi ça, je l'ai noté, moi je me suis mis une petite phrase pour moi, alors après, moi, vous la prenez ou vous ne la prenez pas, mais moi je me suis mis une petite phrase. L'humiliation, c'est souvent l'éclaireur qui annonce la bénédiction. Mais nous, quand on voit l'humiliation arriver, on est tout en protection. Alors que derrière, il y a un chemin de Dieu. Ça annonce une troupe de Dieu. Vous savez, c'est un éclaireur dans l'armée, c'est celui qui va devant et puis il y a toute la troupe derrière. Mais je peux vous dire que Dieu est en chemin. Réfléchis à toutes les fois où tu dis « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi cela ?» Alors, je dois conclure ce matin avec Jésus. Jean 13, on peut lire ensemble ? Jean 13. Tellement de choses à dire, il faut que je puisse sélectionner ce que Dieu veut te dire, le meilleur, mais ce n'est pas facile. Jean 13. Seigneur. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître, de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand il vint autour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Est-ce que vous pouvez répéter ça des fois? Ça va être utile. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet ces temps bizarres dans ta vie. Simon-Pierre, il est choqué de ce que Jésus est en train de faire. Et peut-être ce matin, tu es choqué de ce que Dieu fait. Parce que tu veux que Dieu soit le héros qui sauve. Et là, c'est Dieu qui prend la serviette, qui s'humilie, qui vient laver des pieds sales. Répète ça dans ta vie. Ce que je fais, c'est Dieu qui parle. Tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Ce que je fais pour l'instant, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Et des fois, tu bloques Dieu. Tu refuses, tu dis, Seigneur, je ne veux pas de ça dans ma vie. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Alors Simon y change, heureusement. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, tu me laves pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. On va un peu plus loin. après, verset 12, après avoir lavé les pieds, il remit son vêtement, se rassit à table et leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Mais si donc le seigneur est le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Mais si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » En pratique. C'est pas étonnant, mais je sais pas, on me dit, Yvan, il te reste 24 heures à passer avec ton petit garçon Ethan pour lui donner la plus importante des leçons de sa vie. Enfin, imaginez-vous, prenez la personne que vous avez le plus à cœur, d'accord ? Les disciples, par rapport à Jésus, c'était les personnes qui étaient les plus chères au cœur de Jésus. Il n'a que quelques heures, la Bible dit, il va mourir. Il sait que son heure est venue, que c'est fini. Imaginez, on vous dit, demain, vous partez, d'accord ? Demain, vous ne serez plus là. Demain, à 11h, vous ne serez plus sur cette terre. Je sais ce que vous allez faire. Ce soir, vous n'allez pas faire des trucs idiots, vous n'allez pas perdre votre temps devant la télé ou devant l'ordinateur. Vous allez rassembler les personnes que vous avez le plus à cœur et vous allez dire les leçons les plus importantes de votre vie. Enfin, moi, si j'avais le petit Ethan, je pourrais lui dire, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien, mon. Parce qu'après, je ne serai plus là. Et Jésus, au lieu de parler, franchement, c'est le moment, s'il y a un moment pour faire la leçon, c'est maintenant. Au lieu de parler, Jésus enlève son vêtement, met sa serviette et va laver les pieds dégoûtants qui ont traîné dans la boue, dans les immondices des rues de Jérusalem. Là, vous savez dans quoi ça a traîné les pieds quand même à l'époque. Il n'y a pas les WC publics comme aujourd'hui. Hein. C'était dégoûtant, il y avait un mélange de tout dans les rues, d'accord ? Jésus, Dieu, celui qui était égal à Dieu, nous dit Philippiens. Peu importe son statut, il s'abaisse et il lave les pieds des disciples. Est-ce que tu es prêt à faire ça ? Il y a quelques jours, j'ai eu pas un problème de conscience, mais j'ai eu un choix de conscience. Les WC de ce formidable lieu ont été bouchés. Il y a 500 personnes dans cette église. Honnêtement, je suis persuadé que si je demande qui a le ministère pour déboucher les WC, je vais avoir peu de candidats. Ce matin-là, j'étais disponible, vous voyez. Alors j'ai été prendre le desktop et j'ai passé 2 heures pour nettoyer ce qui était dégoûtant. Et je me suis dit, il vaut mieux que je le fasse parce que vu que c'est tellement dégoûtant, je préfère que personne soit choqué à voir ça. Mais il y a un moment où, avant de le faire, vous voyez, vous dites, Seigneur, est-ce que c'est vraiment à moi quand même de faire ça ? Ça vous arrive jamais ? Vous n'avez jamais des équivalents à faire dans votre foyer Ah non, c'est pas moi qui fais ça, chérie, c'est toi, c'est ton travail. Ah non, 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 j'y suis, ah non. Ah non, j'ai donné, t'as vu la journée de fou que j'ai eue ? Non, non. Attends, moi j'étais là depuis ce matin, hein ? Ou bien dans l'église ? Ah bah, j'ai passé du temps, j'ai donné déjà toute ma matinée. Oh, il faut pas trop me demander là. Est-ce que tu as encore l'esprit de serviteur ? Est-ce que tu as encore un cœur comme Jésus ? Ferme les yeux ensemble. Seigneur. Le chemin qui mène en haut passe par le bas. Jésus allait aller vers le Père. Il dit, Père, glorifie ton Fils. C'est ça qu'il dit dans Jean, dans la prière sacerdotale. Il dit, Jésus pria et dit, « Père, glorifie-moi en me permettant de mourir à la croix. » C'est ça être glorifié, c'est ça la glorification de Jésus. La glorification de Jésus, c'est d'accepter la mort et la mort de la croix, que l'on crache dessus. Et il est glorifié parce que alors que la nature charnelle que l'on a tous ferait, que normalement on dit « Stop !» lui dit « Oui !» Examinons nos cœurs. Prendre la Sainte Cène maintenant. Mais gardons les yeux fermés pour l'instant. Je voudrais juste vous lire un texte pour la Sainte Cène. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre nous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie complète, dit l'apôtre Paul. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez un même amour, une même pensée. Tendez à un même but. Ne faites rien par esprit de rivalité. Dans vos couples, arrêtez l'esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de rivalité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Alléluia. Maître ou serviteur, quelle est ton ambition ? Vivre une vie en conformité avec la parole de Dieu, que tu es passé par les eaux du baptême, que tu as choisi de suivre Jésus. Si tu es pharisien ce matin, s'il y a en toi quelque chose qui veut revendiquer des droits, avant de te lever pour la Sainte Cène, demande pardon à Dieu. Si tu es un disciple de Jésus et que d'après des années, tu as fini par oublier et perdre cette humilité que tu avais au départ. Demande pardon à Dieu. Parce que si tu te lèves pour la Sainte Cène, ça veut dire que dans ta vie, tu es prêt à t'abaisser au sol et à te mettre sur tes genoux pour prendre la Sainte Cène. On devrait faire l'inverse. On devrait demander qui c'est qui est prêt à se mettre à genoux ce matin. Je crois qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui prendraient la Sainte Cène. Qui est prêt à se mettre à genoux ce matin pour Dieu? Qui est prêt à dire, Seigneur, je veux que tu grandisses et que je diminue. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu comprends que la gloire, elle est sur le sol? La gloire de Dieu, elle est au sol. Elle n'est pas en haut, elle est au sol. Jésus a toujours dit, la gloire, elle est pour ceux qui s'abaissent. À Moïse, il était dit, le sol sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Arrête de croire que la gloire de Dieu, elle est au plafond. La gloire de Dieu, elle est par terre. Elle est pour ceux des hommes et des femmes qui savent se mettre par terre, qui savent se mettre sur leurs genoux et dire, Dieu, je suis un mauvais chrétien, je ne suis pas à la hauteur, mais je crois que le sang de Jésus me pardonne tous mes péchés. Alors ce matin, je ne viens pas en disant, alléluia, je suis un bon chrétien. Je viens ce matin en disant, Jésus, j'ai besoin de ta vision, de ta façon de vivre. J'ai besoin de me convertir à nouveau, de pouvoir dire, Seigneur, change mon cœur. Alléluia. 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 Prends la Sainte Cène ce matin alors. Peux te lever, à condition que tu sois prêt à te mettre à genoux.